Pour moi, c'est le détail qui tue. C'est la seule chose que je vois. Le truc qui surgit de la photo, c'est le punctum. C'est comme ça que nommait Roland Barthes dans son essai sur la photographie. Il disait le punctum, c'est la piqûre, le petit trou, c'est la petite tache, la petite coupure et aussi le coup de dé sur la photo. Parce qu'il y a du hasard là-dedans. Ça vous pointe, ça vous poigne, vous savez pas pourquoi. Le photographe non plus, c'est pas pourquoi. D'ailleurs, il ou elle s'est contenté d'être là, ça s'est passé comme ça et ça prend toute la place. En l'occurrence ici, c'est un bouton. Un bouton de nacre qui brille de mille feux parce que la lumière, ce jour-là, va savoir pourquoi, s'est reflétée dessus et l'a fait scintiller. Il y a plein de choses à voir sur cette photo pourtant, je sais pas moi. Le fait qu'il soit dehors alors que tous ses prédécesseurs étaient à l'intérieur, le fait qu'il ait les mains derrière le dos, le fait que le drapeau français soit très loin derrière lui, sur le toit du palais. Et puis c'est vrai qu'il est élégant avec son costume de ville et sa chemise bleue, mais il y a ce bouton de nacre planté au beau milieu et derrière le côté rassurant, décontracté, derrière son autorité, ben on dirait qu'il est touché en plein ventre, comme un cow-boy, comme un gangster. C'est fou comme parfois on peut bloquer le punctum d'une photo, disait Roland Barthes. Ça surgit comme une flèche et ça vient me percer.
Boomerang, boomerang. Augustin Trapenard.
Bonjour à tous, bienvenue dans Boomerang. Mon invité d'aujourd'hui est l'auteur de la photo que je viens de décrire, photographe du féminin, de la marge, de la sensualité. Jacques Chirac l'avait choisi pour documenter la fin de sa campagne en 1995 et pour réaliser, contre toute attente, son portrait officiel. Bonjour Bettina Reims.
Bonjour Augustin.
Merci de nous accueillir chez vous en Normandie. Comment est-ce que vous la regardez cette photo aujourd'hui, en particulier aujourd'hui ?
Aujourd'hui, je suis triste. Aujourd'hui, je suis triste. J'ai perdu quelqu'un de proche. Et j'ai perdu un ami de 30 ans. Et je regarde cette photo en me disant que, qu'au fond, une photo réussie, c'est une photo qui décrit non seulement la personne qui est devant vous, devant votre objectif ce jour-là, mais c'est la personne qu'il va devenir et qu'il restera. Et je pense que cette image, c'est Jacques Chirac, ce sera Jacques Chirac. Pour l'éternité. C'est lui, cet homme des grandes plaines, cet homme généreux, cet homme large, cet homme dans les bras duquel on avait envie de se tenir.
Comme ça, c'est la façon dont vous la regardez. Est-ce qu'elle vous regarde, cette photo ?
Ah ouais. Ah ouais.
Elle dit quoi ?
Et puis, elle dit beaucoup de tendresse.
Le détail qui vous frappe, Bettina, encore aujourd'hui, quand vous la regardez, précisément, le détail qui tue, c'est quoi ?
Oh, il y a eu toute une polémique autour de cette photo. C'était le bouton en nacre au milieu de son costume. Il y avait le bouton qui brillait.
Ça a été
et,
sûr.
Et le Monde, le journal Le Monde avait fait sa une sur la brillance du bouton en expliquant que je l'avais fait exprès. Évidemment, moi, grande perverse, je vais faire briller un bouton d'un costume. Et donc, il y avait eu tout un truc autour de ça. Qu'est-ce qui reste de ça ? Il reste ce personnage qui était pour moi... le maximum de ce que devait être un président de la République.
Vous vous souvenez du jour où vous l'avez prise, cette photo ?
Ah, mais je me souviens très très bien.
De chaque minute ?
Je me souviens de chaque seconde. Ça a commencé, en fait, ça a commencé avant la photo. Ça a commencé le lundi matin, il est élu le dimanche soir. Je les quitte tous à 10h du soir. Je rentre me coucher, je suis épuisée. Je viens de passer 4 jours des derniers jours de la campagne à le suivre partout. Il a des beaucoup plus grandes jambes que moi. Donc j'ai des courbatures partout, j'en peux plus. En plus, j'ai pas d'assistant, on m'avait demandé de venir seule, je trimballe des appareils photo à l'époque avec des pellicules, je me trompe, je mets du noir et blanc au lieu de couleur, enfin bon, tout ça est un peu foutraque. Je rentre chez moi, je me dis 3 jours de repos, et le lundi matin le téléphone sonne, c'était Jacques Pilan, qui était son célèbre conseiller, qui avait fait la passation de Mitterrand à lui.
Et qui vous dit, la photo, c'est vous ?
Et qui me dit, je me revois, je suis assise dans la cuisine du studio, je prends mon petit déjeuner, il est 7h30 du matin, j'ai une journée de photo, et il me dit, le président aimerait que vous fassiez sa photo officielle. D'abord, le président, ça ne me fait pas tilt pendant une seconde, parce que c'est mon copain depuis 15 ans, et qu'au début, je l'appelais monsieur le maire, après, je l'appelais par son prénom, mais le président, vous voyez, je comprends. comprends que c'est lui, enfin, ça me revient, et je dis, ben oui, enfin, pourquoi pas, oui, c'est, oui, oui, pourquoi moi? Pourquoi moi qui viens de publier Chambre Close, un livre sur des femmes qui se dénudent dans des chambres d'hôtel? Oui. Vous êtes sûr que c'est une bonne idée? Vous êtes sûr que c'est une bonne manière de commencer un septennat? Et il me dit, écoutez, voilà, c'est une très bonne idée, discutez pas.
Alors, immédiatement, dans quel type de scène est-ce que vous l'imaginez?
Ah ben, je l'imagine pas. Je connais mal l'Élysée. J'y suis allée une ou deux fois photographier le président Mitterrand en tremblant. Et je connais très peu de pièces. Donc, je me précipite là-bas. Et avec Jacques Pilan, nous faisons un repérage. Alors, c'est drôle parce que pendant que nous repérons pour ma photo, la famille Chirac repère l'endroit où ils vont vivre. Et donc, c'est comme une scène de Marx Brothers. On se croise tout le temps. Et le président, à un moment, me prend par le bras et me dit « Viens, je vais te montrer mon bureau. » Il m'ouvre un placard à balai. C'est la vérité. Personne ne sait où il est, sauf que moi, je vois de l'or partout. Je vois de l'or partout, je vois le bureau qui était le bureau où le président Mitterrand a été photographié, je vois le drapeau, c'était Giscard d'Estaing, je ne vois que des choses que j'ai déjà vues.
Alors,
je me dis, il faut trouver quelque chose. Et bah, tout d'un coup, j'ai cette idée, parce que j'ai toujours pensé à lui comme à, je sais pas, comme à Gary Cooper ou au héros de ces westerns que j'aime tellement. J'ai toujours pensé que c'était un cow-boy, j'ai dit, bah, cow-boy, ça va dehors. Et donc, j'ai dit, on va la faire dehors.
C'est la première fois.
C'est la première fois.
C'est une révolution.
Et ils sont un peu stupéfaits. Enfin, Pilan est un peu stupéfait. Il me dit, vous êtes sûr et tout ça. Il faut qu'on en parle au président. Donc, on trouve le président qui est en train de chercher dans un couloir, je ne sais quoi, et un endroit pour exister. Et on lui dit, alors dehors, ça va? Il dit, mais oui, laissez-la faire. Et c'est ce qu'elle fait et tout ça. Donc, on décide d'aller dehors. Alors, je voulais qu'on voit le bâtiment en entier et pas juste la cour d'honneur. On ne voit que la cour d'honneur, parce que c'est là qu'il y a les journalistes, c'est
alors
là qu'ils sortent du Conseil des ministres. Donc je recule vers l'avenue Gabriel, je recule, mais le jardin n'est pas si grand. Enfin, il serait grand si c'était le vôtre ou le mien, mais pour l'Élysée, il n'est pas énorme. Donc je recule, presque jusqu'au bout, et là, je vois l'Élysée en entier. Il y a du vent ce lundi, c'est magnifique, le drapeau flotte. Et je dis, c'est là qu'on va faire la photo. Donc rendez-vous est pris pour le lendemain matin, le surlendemain matin, le mercredi matin. Évidemment, j'arrive, j'installe mes lumières, il n'y a plus de vent du tout, le drapeau ne flotte pas, donc ça commence mal. Ensuite, on choisit bleu ou blanc pour la chemise. Nous décidons qu'elle sera bleue.
Pourquoi ?
Je ne sais pas, il m'a dit, tu veux bleu ou blanc ? J'ai dit bleu. On ne sait pas pourquoi, on a des intuitions de choses. Je trouvais que, je ne sais pas, ça faisait ressortir son teint ou je ne sais pas quoi.
Il vous a dit, je vais faire sortir mon bouton de nacre ou pas?
Non, pas du tout. Il ne m'a pas du tout parlé de son bouton de nacre. Il m'a juste dit, on va vite, hein, je n'ai pas que ça à faire.
Combien de temps?
20 minutes.
20 minutes.
20 minutes.
Combien de prises?
3 planches contact, c'est 9 images par planche contact. Ça fait une vingtaine de photos, 25 photos.
Quelle est son attitude face à l'objectif?
Il est très détendu, il est très décontracté. On vient de passer 4 jours ensemble. Aucun homme n'aime ça.
Être pris en photo?
Pas tellement, au fond. C'est pour ça que j'ai toujours photographié les femmes. Les hommes, ça les ennuie. Ils commencent toujours par dire combien de temps ça va prendre. J'ai l'impression d'être un dentiste. Mais il me dit que c'est vrai qu'il a autre chose à faire. Il est en train de s'installer. Il est président depuis 48 heures. Il ne va pas passer des heures devant mon appareil photo.
C'est lui qui l'a choisi, la photo finale?
Alors c'est Jacques Pilan qui l'a choisi puis qui lui a soumis. Moi je suis arrivée le lendemain matin avec 3 images, avec une qui avait 3 croix, qui était mon choix, et Jacques Pilan a choisi celle d'à côté. J'ai dit, vous choisissez celle d'à côté juste pour me contredire. Il a dit non, pas du tout, et il m'a donné une leçon fantastique. Il m'a dit, la vôtre est très bien, c'est un magnifique portrait, et celle d'à côté, c'est le portrait d'un chef d'État. Et je ne comprenais pas pourquoi, parce que c'était vraiment presque la même image. Il y avait un petit truc, il y avait un petit quelque chose dans le cou qui se levait, ou dans je sais pas, c'était à peine perceptible, c'est comme le jeu des 7 erreurs dans...
Ou dans le bouton de nacre.
et voilà comment s'est fait la photo. On a fait voler le drapeau, ce qui était difficile, parce que c'était pas numérique à l'époque. Et voilà comment, pendant un septennat, puis un quinquennat, ça fait quoi si on sait compter 15 ans? Ouais. Pendant 15 ans, cette photo a J'avais très peur qu'il la change la deuxième fois. Je me suis dit, il va en refaire une autre avec quelqu'un d'autre. Mais non, il a gardé la mienne.
Peu de temps avant ce portrait, il faut le dire, vous l'aviez suivi dans les coulisses de la fin de sa campagne pour la présidentielle de 1995. Comment s'était établi le premier contact entre vous deux ?
Ah mais on se connaissait très bien. On se connaissait depuis des années. Il était maire de Paris. Mon studio était de l'autre côté de la rue de Rivoli. On s'est rencontrés parce qu'il aimait la photographie. On s'est rencontrés autour de la photographie. Il m'a invité à dîner. Je me suis dit, oh là là, est-ce que j'ai... Alors deux, trois fois, j'ai refusé. Et puis, mon assistante de l'époque m'a dit, écoute, quand même, le maire de Paris t'invite à dîner, c'est la quatrième fois, faut y aller maintenant. Alors j'ai dit oui, et puis je me suis retrouvée dans un énorme dîner où il y avait, je crois, 200 personnes.
Et là, quel homme est-ce que vous rencontrez ?
Et là, je suis terrifiée. Il me dit, il se présente toujours comme si on ne savait pas qui il était. Donc il se présente et il me dit, on va se voir tout à l'heure. Et puis je me retrouve assise à côté de lui à table et il me dit, on va parler de photographie. Et on rentre dans une conversation, je me rends compte qu'il connaît mes images, qu'il les adore. Et puis petit à petit, on devient amis. Il vient de temps en temps le soir, vers 7h, pendant une heure, il vient boire un coup au studio, il aime bien l'ambiance du studio. On parle de photos, et puis je lui dis, vous savez, il n'y a pas vraiment d'endroit pour la photographie. À l'époque, il n'y avait pas le jeu de paume, il n'y avait pas grand-chose. Je lui dis, ce serait bien qu'il y ait une maison pour la photographie.
Il l'a faite.
Il l'a faite. J'en étais la marraine. Et puis donc, quand ils avaient besoin d'une photo, lui ou sa femme ou Claude, ils traversaient la rue et ils venaient pour un passeport, pour une carte de vœux.
Comment est-ce qu'on photographie le pouvoir, Bettina Reims ?
C'est compliqué. La meilleure photo pour moi qui ait presque jamais été faite, mon modèle, c'est cette photo de Jean-Marie Le Pen, de cet épouvantable personnage faite par Helmut Newton avec deux dogs à ses côtés. Et là, on voit en image ce que c'est que le mal. Et je me suis dit, parce que j'aimais beaucoup cet homme, comment est-ce qu'on peut témoigner de ce qu'on éprouve pour quelqu'un, du bien qu'on pense de quelqu'un ? C'est compliqué.
Mais le pouvoir, vous qui vous êtes toujours penché sur des sujets dont vous avez travaillé la fragilité, c'est intéressant quand même.
Il y a beaucoup de fragilité dans le pouvoir.
Vraiment chez lui, en l'occurrence ?
Ah oui.
Quelle fragilité ?
Oui. Il n'était pas si sûr de lui. C'était quelqu'un de très secret, de très pudique. Il ne se livrait pas. Quand on ne se livre pas avec les mots, c'est difficile de se livrer devant un appareil photo. Alors il parlait. Mais on ne peut pas photographier quelqu'un qui vous parle. Et à un moment, il faut dire taisez-vous, parce que ça fait des trucs bizarres avec la bouche.
Tout est dans le regard, alors ?
Tout est dans le regard, tout est dans cette seconde d'émotion. Ça a toujours eu lieu.
Qu'est-ce qu'il y avait ?
Ça s'est toujours passé.
Dans son regard à lui ?
Beaucoup d'empathie, beaucoup de sympathie, beaucoup de tendresse, beaucoup d'humour.
De la séduction aussi ?
Oh, énormément.
Comment ça ?
Oh, bah, énormément. Je veux dire, il aurait séduit une chaise.
C'est quoi un regard pour vous, pour la photographe que vous êtes ? C'est tout.
Un regard, c'est tout. Un regard et les mains.
Les mains ?
Ouais, les mains, c'est très important.
Quelles mains avait-il ?
Il avait des très belles mains.
Il faut quand même que le sujet photographié s'abandonne à un moment donné, non ? Qu'il accepte de plus être dans le contrôle de son image, de peut-être même pas la regarder, l'image. C'est possible, ça ?
Pas pour la photo officielle d'un président de la République. Il y a trop de choses dans ce cahier des charges. Il y a trop d'enjeux. Il faut être proche des gens, mais en même temps, il faut être juste un peu au-dessus.
Parce que son image, on peut le dire, il la maîtrisait, Jacques Chirac. Il en a souvent joué, même.
Bien sûr. Il a joué de son image, il a joué de sa séduction, il a joué avec les hommes comme avec les femmes d'ailleurs, peut-être un peu plus avec les femmes. Mais oui, bien sûr, c'était un séducteur, c'était quelqu'un qui aimait tellement les gens que ça se voyait, que ça se sentait, c'était quelqu'un qui vous touchait. Il vous touchait, il vous prenait la main, il vous prenait le bras, c'était beaucoup.
Mes chers compatriotes.
Ben voilà, je suis candidat. Voilà. Par contre, il y a un truc, j'ai peut-être trop mis le paquet sur l'effet de surprise.
Le nouveau président de la République est donc Monsieur Jacques Chirac, élu avec 52% des voix. C'est la joie, c'est la mienne, on peut le comprendre.
Jacques Chirac, au siège, en avant, toute la nation.
Que pognon, mangez des pommes !
Monsieur Chirac, s'il vous plaît, je vous en prie, ce n'est pas un meeting, s'il vous plaît.
Ah oui, mais putain, j'ai une patate en ce moment, moi. Je l'ai bouffé tous, j'ai la niaque.
Inouï.
Regardez bien nos téléspectateurs, ils sont là, ils veulent vous voir.
Oui, c'est ce que je fais ici dans cette terre, car, comme vous le savez, à Paris, où j'assume les responsabilités de maire, il y a beaucoup, beaucoup de provinciaux. Paris est une ville qui m'arrive très, très souvent de voir un chauffeur de taxi qui me fait signe et qui me dit « Ah, je suis corrézien, ah, je suis de Meymac, je suis de Davignac, etc., je suis de Combrosolles. »
C'est vrai, je n'aime pas beaucoup me montrer, m'exhiber.
Oh, la superbe pomme, ça, c'est gentil.
Salut.
Moi, c'est
des pommes.
Ah oui, c'est bon les pommes pour la santé.
J'aime beaucoup les pommes, je suis un mangeur de pommes.
La pomme est un fruit sympathique et je l'observe tous les jours.
Donnez-moi deux bonnes raisons de voter pour vous.
Ben, je suis sympa.
Non, 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 une vraie raison de voter pour vous. Non, ça me gêne. Non, j'aime pas trop parler de moi, de mes qualités. Je suis un timide, un pudique. Pudique, il y a ces photos de vous tout nus. Ah oui, non, mais ça n'empêche pas. Je suis pudique du haut, c'est tout.
Tout à fait étonnant ce qui s'est développé autour de sa personnalité jusqu'à des jeunes de 10-15 ans qui portent des t-shirts avec Chirac qui saute le portillon du métro, avec ses fleurs de vahiné autour du cou. Enfin, il y a toute une collection d'objets autour de Chirac. Il a connu une vogue tout à fait étonnante.
What do you want? Me to go back to my plane and go back to France? Is that what you want?
That is provocation.
It's not a provocation.
Please, you stop now.
Bonjour. Si vous ajoutez à cela le bruit et l'odeur...
Ce soir, je ne suis pas le Premier ministre et vous n'êtes pas le Président de la République. Vous me permettrez donc de vous appeler Monsieur Mitterrand.
Mais vous avez tout à fait raison, Monsieur le Premier ministre.
Monsieur Chirac, est-ce que vous aviez un ours quand vous étiez petit?
J'avais un lapin. Bon, on vient vous cacher, auquel je tenais beaucoup.
Monsieur Chirac est demandé à la réception. Monsieur Chirac.
C'est pour moi.
Tu t'appelles Chirac, toi?
Ben oui, Chirac. Patrick Chirac.
Pourquoi tu ne changes pas de nom?
Pourquoi c'est moi qui changerais?
Mes chers compatriotes, je vous remercie. Vive la République et vive la France.
Quel regard est-ce que vous portez, Bettina Reims, sur la manière dont les hommes politiques se mettent en scène, vous?
C'est étrange parce que c'est jamais deux fois pareil. Je les ai presque tous photographiés, enfin presque tous, j'ai pas 100 ans, mais j'ai commencé par photographier le président Mitterrand, qui m'a terrifiée, il m'a fait très très peur. J'ai fait des mauvaises photos de lui, deux fois, mais vraiment mauvaises. Ensuite, il y a eu le président Chirac. J'ai jamais photographié le président Hollande. J'ai travaillé avec Nicolas Sarkozy. Ça, c'était drôle parce qu'il était tout le temps en mouvement et qu'il fallait que ça se voie et chaque fois, c'est des expériences différentes.
Et comment Jacques Chirac se mettait-il en scène? Comme un homme proche du peuple, on le sait. Qu'est-ce que ça vous inspire, ça, à vous? Parce que c'est ça que l'histoire semble retenir aussi.
Oui, parce que c'est ce qu'il y a de plus facile à dire, c'est ce qu'il y a de plus consensuel. Il était proche du peuple, bien sûr il était proche du peuple.
Mais
c'est
important quand on est président.
Mais évidemment que c'est important. Il était proche du peuple et en même temps il n'était pas non plus. Je veux dire, c'est quelqu'un qui a toujours vécu dans des palais. Il ne vivait pas comme les gens normaux. On essaye de nous expliquer qu'il vivait comme que c'était un homme normal.
Donc c'était une mise en scène de fait, ouais.
Non, c'était un mélange de mise en scène et de vraie empathie pour les gens et de vraie sympathie. Et je pense qu'il avait beaucoup plus de sympathie pour les gens un peu cassés, pour les gens humbles, pour les gens que pour les gens de son monde, au fond. Ça ne l'amusait pas.
Si on prend par exemple cette photo de Jacques Chirac qui a été prise par Frédéric Stevens en 2007 au Salon de l'Agriculture, je vous la montre, qu'est-ce qu'elle vous évoque à vous? Est-ce que peut-être vous pouvez nous dire ce que vous voyez?
Il caresse le cul de quelque chose. Pas de quelqu'un, mais d'une vache ou d'un cheval ou d'un... Je ne suis pas forte en animaux.
En tout cas, il est proche.
En tout cas, il est proche et il adore ça, ça l'amuse. Il adore ça, c'est à la fois la campagne, la Corrèze, la bouffe. Tout ça, c'est des choses qui lui tenaient beaucoup, beaucoup à cœur. C'était quelqu'un qui aimait la vie, qui aimait vivre. Je ne pense pas que c'était quelqu'un de très heureux.
C'est vrai?
Personnellement. Je ne pense pas. Je pense qu'il a tout consacré à cette carrière formidable qu'il a faite et aux causes qui lui tenaient à cœur. Est-ce que c'était un homme heureux? De temps en temps, passait dans son regard quelque chose vraiment comme de la tristesse, comme quelque chose qu'il n'avait pas vécu.
Une autre photo, qu'on a beaucoup vu circuler depuis hier dans la presse, sur les réseaux sociaux, photo prise par Jean-Claude Delmas pour l'AFP le 9 décembre 1980, photo où Jacques Chirac enjambe le tourniquet du métro de la station Aubert. Il est maire de Paris à cette époque. Pourquoi est-ce qu'elle est restée, cette photo? Pourquoi est-ce qu'elle a tant marqué?
J'ai jamais vu cette photo.
Oh.
Non, j'ai jamais vu. Je sais pas, elle est drôle, parce que d'abord, c'est une espèce de rébellion. Je veux dire, ça veut dire qu'il paye pas, mais de toute façon, il payait pas. C'était aussi un rebelle. C'était un drôle de mélange. C'était aussi un rebelle et un peu un voyou. Il aimait bien ça. Ne pas être là où on l'attendait, s'échapper de temps en temps, faire des coups comme ça.
Après le cow-boy, le gangster?
Ouais, un peu. C'est un peu l'idéal, non?
Alors ce sourire, qu'est-ce qu'il dit ou qu'est-ce qu'il masque, peut-être?
C'est un sourire presque d'adolescent. C'est un sourire enfantin et très très franc à la fois. Là, il est heureux. C'est le sourire d'un homme heureux. Il est content, il s'amuse.
Ça arrive que ce soit un masque, le sourire?
Pas celui-là, en tout cas. Je ne pense pas que quelqu'un comme ça pouvait masquer un sourire.
Tiens, à propos de masque, vous vous souvenez de cette photo, cette autre photo, où ses yeux sont couverts par un masque de nuit? Il porte un costume bleu et des pantoufles. Il est assis dans un avion Concorde, au siège rouge. Ses jambes sont relevées sur la petite tablette devant lui. C'est une photo de Jack Garofalo, prise en 1987. Qu'est-ce qui attire votre attention, là?
D'abord, il est immense, puisqu'il touche le bout amplement plus que nous. Je sais pas, il dort tout raide.
Vous pensez qu'il dort vraiment?
Oh, peut-être qu'il se repose.
Vous qui avez pris l'avion avec lui, Bettina?
Oh, j'ai beaucoup pris l'avion avec lui parce qu'on a fait le tour de l'Asie ensemble pendant 10 jours. Enfin, bon, on n'était pas tous les deux, hein, y avait 2 avions avec. Mais oui, il se pose quelque part, il s'endort.
Il était du genre à piquer du nez?
Oui, oui, il se pose quelque part, il s'endort. Je crois que c'est quelqu'un qui avait besoin de beaucoup dormir parce qu'il se couchait tôt. Je me souviens de ce voyage où, avec les journalistes, vers 9h30 du soir, il n'y avait plus rien à faire. On allait boire des coups dans les hôtels au Vietnam, en Chine, où est-ce qu'on est allé, à Hong Kong, à Singapour. C'était un voyage formidable. Il faisait 12 000 trucs dans la journée, il était emballé, il était enthousiaste, on courait dans les musées, il connaissait la provenance de chaque objet, il connaissait tout. Les gens étaient stupéfaits. Les gens dans les musées étaient stupéfaits par sa culture. Mais là, il se laissait aller, parce que là, c'était des choses qu'il aimait. Là, il était dans son monde.
Vous avez réussi à les capter, ces moments, parfois?
Je photographiais pas.
Parce qu'il y a une photo que vous avez choisie, Bettina Reims, que vous avez postée sur vos réseaux sociaux hier. Une photo que vous avez prise de Bernadette et Jacques Chirac dans un avion.
Ah oui, ça, c'était drôle. Ça fait partie des derniers jours de la campagne. C'est donc le dimanche matin. Ils partent tous les deux voter en Corrèze. Elle, visiblement, attend une réponse de quelque chose. Je ne sais pas s'il va lui donner ou pas. Il a l'air d'assez bonne humeur.
Ça a l'air d'être une photo un peu volée.
Ah, c'est une... Oui, là, c'était des photos volées. En fait, on avait le cahier des charges était le suivant, que Claude avait établi avec moi. Je suis arrivée le jeudi matin, donc toute seule, sans assistant. On ne me faisait jamais sortir de la pièce. J'ai assisté à toutes les réunions jusqu'au dimanche soir, à toutes les formations des ministères, si jamais il était élu, à des réunions dont je n'ai pas le droit de parler, et etc. Et j'ai dit, on ne me laissera jamais sortir, et après vous enlèverez les photos que vous voulez enlever.
Mais quand on vous faisait remarquer que votre présence était gênante?
Alors il y a des gens qui disaient, mais elle fait quoi celle-là, là? Et alors il disait, il avait cette réponse merveilleuse, il disait, elle n'est pas française, elle ne comprend pas ce qu'on dit. Et donc j'ai pu rester là tout le temps, assise à quatre pattes, dans cet énorme bureau de la mairie, qui était un bureau d'angle, comme ça, gigantesque, de la mairie de Paris. J'entendais tout.
Quand vous voyez ce couple, Jacques et Bernadette Chirac, qui a traversé, qui a incarné quelque chose de l'histoire de la Ve République, de la France, de l'histoire tout court, comme le rappelait hier le président Macron, qu'est-ce que vous voyez d'ailleurs, sur leur visage?
Je vois un couple qui a vécu longtemps, longtemps ensemble, qui ont besoin l'un de l'autre, quoi qu'on puisse en penser ou quoi que des gens aient pu en dire. Il avait besoin d'elle. Par moments, il pouvait être agacé ou...
Réciproquement, non?
Oui, l'agacement était absolument réciproque, mais il y avait un grand, grand attachement et puis ils ont partagé des malheurs épouvantables et des choses terribles. Et il n'aurait jamais pu vivre sans elle. Enfin, puis il n'aurait jamais pu faire tout ce qu'il a fait sans elle.
On va reparler de cet autre Jacques Chirac, évidemment, que vous nous racontez, parce que c'est passionnant. Juste après Barbara, tiens, si la photo est bonne, en 1964, vous êtes sur France Inter avec Bettina Reims. Vous écoutez Boomerang, évidemment.
Si la photo est bonne, juste en deuxième colonne, Il y a le voyou du jour qui a une petite gueule d'amour. Dans la rubrique du vice, il y a l'assassin de service qui n'a pas du tout l'air méchant, qui a plutôt l'œil intéressant. Coupable ou non coupable, s'il doit se mettre à table, que j'aimerais qu'il vienne pour se mettre à la mienne. Si la photo est bonne, il est bien de sa personne. Il n'a pas plus l'air d'un assassin que le fils de mon voisin. Ce gibier de potence, pas sorti de l'enfance, va faire sa dernière prière pour avoir trop aimé sa mère. Bref, on va pendre un malheureux qui avait le cœur trop généreux. Moi qui suis femme de président, j'en ai pas moins de cœur pour autant. De voir tomber des têtes, à la fin ça m'embête. Et mon mari, le président, qui m'aime bien, qui m'aime tant, quand j'ai le cœur qui flanche, tripote la balance. Si la photo est bonne, qu'on m'amène ce jeune homme, ce fils de rien, ce tout est pire, cette crapule au tout sourire, ce grand gars au cœur tendre qu'on n'a pas su comprendre. Je sens que je vais le conduire sur le chemin du repentir pour l'avenir de la France contre la délinquance. C'est bon, je fais le premier geste, que la justice fasse le reste, surtout qu'il soit fidèle. Surtout, je vous rappelle, à l'image de son portrait, qu'il se ressemble trait pour trait. C'est mon ultime condition pour lui accorder mon pardon, qu'on m'amène ce jeune homme. Si la photo est bonne, si la photo est bonne, si la photo est bonne.
Boomerang sur France Inter. Augustin Trapenard.
Pas facile de saisir ce qui anime son visage. Hein. Elle a quelque chose de trouble, comme une photo un petit peu floue, justement. Elle a le regard vague, un peu embrumé derrière ses lunettes, qui tout en vous fixant semble se déporter vers quelque chose d'insaisissable avec son pull noir et son jean un peu troué même, ses baskets. Elle nous reçoit chez elle, confortablement assise, dans un fauteuil. La photographe Bettina Reims, invitée de Boomerang pour cette émission spéciale consacrée à Jacques Chirac, président, homme qui comptait parmi vos amis que vous avez photographié. On vous doit la photo officielle de Jacques Chirac, on le disait. Vous avez déclaré hier, à l'annonce de sa mort, que vous aviez perdu un ami. Qu'est-ce qui en faisait un ami ? Tiens.
D'abord, des passions communes, celle de la photographie, on en a parlé. La gentillesse qui était la sienne, la générosité qui était la sienne. Il a toujours été là quand j'ai eu besoin de lui, à des moments plus difficiles. Et il était là avant même que je fasse un signe, que je lève un doigt, il était là. C'était quelqu'un d'extraordinairement amical, tendre. J'ai toujours eu, je sais pas comment dire, j'avais l'impression qu'il me protégeait.
Et comment est-ce qu'il vous regardait, vous qui n'étiez pas forcément porté par ses idées, qui n'exprimait pas un grand intérêt pour la politique ? Comment est-ce qu'il vous jugeait ?
Comme une artiste, peut-être un peu comme une marginale, mais peut-être pas tant que ça, parce qu'il l'était aussi. J'étais son ami, on n'avait pas le droit de me toucher. Il disait tout le temps aux gens, par exemple, un chauffeur qui allait me raccompagner, il disait « Faites bien attention à elle, hein, ne la laissez pas sur le pas de la porte ». J'avais l'impression que cet homme veillait sur moi, et que même quand on ne se voyait pas pendant des mois, ce qui arrivait, il était là, il était présent. Je savais qu'il demandait aux gens de mes nouvelles. Voilà, on était amis pour la vie.
C'est possible de photographier un ami pour la vie ?
Oui, c'est possible. C'est pas possible avec tout le monde. C'était possible avec lui aussi parce qu'on se voyait pas tous les jours. Je pense pas que je pourrais photographier l'homme de ma vie.
Vous dites souvent que les hommes, vous ne les photographiez pas aussi parce qu'ils vous troublent.
Oui, les hommes me troublent.
Ils vous troublaient pas, Olivier ?
Je suis pas un photographe quand je photographie les hommes. Je suis une femme. Et je dois pas être une femme quand je photographie. Je dois être un photographe.
Quand vous avez photographié Jacques Chirac, vous étiez une femme ou vous étiez une photographe ? Vous étiez une amie ?
Au départ, j'étais un photographe. Et puis, puis je suis devenue une amie, mais je suis restée un photographe. Je veux dire, je devais rester à ma place. C'était le chef de l'État et j'avais cette énorme charge de le représenter au mieux et en pensant que cette photo irait dans toutes les mairies, dans tous les commissariats de police. C'était une responsabilité énorme. C'était une confiance énorme qu'il me faisait. Est-ce qu'il m'a troublée ? Sûrement.
Dans quelle mesure est-ce qu'il faut aimer son sujet quand on le photographie ?
Faut pas ne pas l'aimer, en tout cas.
Alors, avec Jacques Chirac, vous le disiez, vous aviez ce lien qui était la photographie. Lui qui était si souvent photographié, quel rapport est-ce qu'il entretenait avec les photos de lui ?
Je crois qu'il s'en foutait.
Ah, c'est vrai ?
Oh oui, je crois qu'il s'en foutait complètement. Il m'a jamais demandé à regarder une photo que j'avais fait de lui. Il ne m'en a jamais parlé, j'en ai fait des tonnes. Je vous dis, j'ai fait des cartes de vœux pendant des années. De la famille entière, j'ai fait des photos du petit quand il est né, tout ça. Je faisais ça, on m'appelait, on me disait, le président va venir, là il a besoin d'une photo vite fait, ça vous embête pas. Donc je mettais tout le monde de côté, je disais on va s'interrompre 10 minutes, il faut faire une photo là.
Et vous maîtrisiez tout ?
Non, on maîtrise jamais tout. On maîtrise jamais tout, on maîtrise ce qu'on peut, la couleur d'une chemise, mais...
ou un bouton de nacre.
Ou un bouton de nacre que je n'ai pas maîtrisé, parce que je ne l'avais pas vu. Je n'avais pas vu qu'il brillait. Mais non, on maîtrise jamais tout, c'est un jeu qu'on joue à deux.
Il y a des moments de vulnérabilité que vous avez vécu aux côtés de Jacques Chirac, parce que c'est ça qui ressort de notre entretien ce matin, que vous auriez pu photographier, et puis vous ne l'avez pas fait.
Ah oui ?
Pensez à quoi ?
Je ne peux pas dire.
Parce que ça aurait été obscène ?
Parce que ça aurait été inapproprié, parce que c'était des moments pour autre chose que la photographie, parce que c'est des moments où on avait des choses à se dire, parce que la photographie, ça tient pas toute la place dans ma vie. Ça tient une place importante, mais ça tient pas toute la place.
Quelle image, Bettina Reims, jamais montrée, jamais prise, jamais vue, quelle image vous appartenant à vous seule, est-ce que vous retenez ?
J'en ai une.
De Jacques Chirac.
J'en ai une, que je n'ai pas eu le droit de publier, qui est dans un coffre, qui est sublime, qui est probablement la plus belle photo que j'ai faite de lui. Il est 8h ce dimanche soir-là, on est dans son bureau, lui et moi, tous les conseillers, tout le monde est parti annoncer la bonne nouvelle, il est président de la République, Bernadette est partie d'un côté, Claude d'un autre, tout le monde est parti. On est tous les deux dans le bureau, moi avec mon appareil photo. Il y a une toute petite télévision, à peine plus grande que votre ordinateur, dans un coin du bureau. Il est debout, très très grand, les mains derrière le dos, comme il était souvent. Et il regarde l'écran, et moi je suis de côté, et sur l'écran s'affiche le portrait du gagnant, et des larmes coulent, et je fais la photo.
Et pourquoi elle n'est pas publiable ? Parce qu'il
Claude
pleure.
Claude m'a demandé de ne pas la publier. Claude Chirac, sa fille, qui était son, je ne sais pas comment on dit, sa conseillère.
Pourquoi, à votre avis ?
Parce que c'était un moment de vulnérabilité et qu'un président de la République élu, 2 minutes avant, n'a pas le droit à la vulnérabilité.
Vous le regrettez, ça ?
J'aurais aimé publier cette photo, mais j'ai compris.
Et vous l'avez gardée ?
Ah, bien sûr.
Merci infiniment, Bettina Reims, d'être venue faire un tour dans cette émission, de nous avoir réservé votre parole aussi pour cet entretien unique. C'était très éclairant, très émouvant aussi. Et un autre portrait de Jacques Chirac. Merci à vous et merci à toute l'équipe de Boomerang pour cette folle fin de semaine, notamment Lola Costantini, Perrine Malinge, Léonard Billot, Joséphine Dumoulin, Pierre Martinerie et Jean-Baptiste Dibert.